Le journal, Jacques Molima.
Les jeunes assassins de l'Umété condamnés à mort hier lundi soir par le tribunal de grande instance de Matete, Gassi Makoko et son compagnon ont assassiné 5 personnes le dimanche dernier. La question de la retenue à la source des 40% des recettes aux provinces toujours d'actualité. De retour à Lubumbashi au Katanga, Moïse Katumbi annonce la retenue de 40% dès le 1er septembre prochain. Arrivé ce mardi à Moba du convoi des réfugiés congolais bloqués à Pweto depuis le début du mois, le HCR attend des garanties sécuritaires pour la poursuite de l'opération de rapatriement des réfugiés de la Tanzanie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mais avant le développement de tous ces titres, sachez que le chef de l'État, Joseph Kabila, vient d'arriver il y a quelques instants à Oando, au nord du Congo-Brazzaville. Il va participer à la célébration demain mercredi 15 août du 47e anniversaire de l'indépendance du Congo-Brazzaville. Il a été accueilli à l'aéroport de Indaga de Oando par son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso. Plusieurs chefs d'État africains vont également prendre part à ces festivités. Nous le disions au sommaire, le verdict est tombé hier lundi tard dans la soirée. Le jeune auteur de l'assassinat de l'Umété sont condamnés à mort par le tribunal de grande instance de Matete. Gassi Makoko et son compagnon ont assassiné 5 personnes le dimanche dernier. Les détails du verdict avec René Capita.
Le tribunal de grande instance de l'Umété, siégeant en chambre foraine à la maison communale de l'Umété, a prononcé à l'égard de Gassi Makoko pour coups et blessures et a entraîné la mort. Ce jeune homme a tué le dimanche dernier 5 membres de sa famille sur l'avenue Ndanou 2, numéro 3, dans la commune de l'Umété. Son compagnon Matindo, qui l'a aidé à commettre ses forfaits, est également condamné à la même sentence. Quant au féticheur Mputu, dit imbécile, ce dernier est condamné à 15 ans de prison pour tentative d'escroquerie, escroquerie et menace de mort. Selon la présidente du tribunal de grande instance de Matete, le père du jeune homme Makoko, reconnu civilement responsable, devra payer les dommages aux familles des victimes. Dommages fixés à 95 000 $ américains. Toujours selon la présidente du tribunal de grande instance de Matete, les condamnés à mort ne pourront pas être exécutés directement. Ils disposent du droit de recourir à la grâce présidentielle.
15e audience ce mardi du procès sur l'assassinat de Serge Mayeshe. Il s'agissait de la réplique de la défense. Chacune des parties est restée campée sur ses propres arguments. La défense des présumés commanditaires Alain Moulimbi et Serge Mouima maintient sa conviction selon laquelle les prévenus en détention ne sont pas les véritables assassins. De son côté, la partie civile reste convaincue que le ministère public a fait du bon travail en mettant la main sur les vrais assassins de Serge Mayeshe. Le verdict est prévu pour mardi prochain. Le ministre provincial du Nord Kivu et du Sud Kivu décide d'harmoniser les activités des deux provinces dans les domaines sécuritaires et économiques. C'est ce qui ressort d'un conclave de 3 jours tenu à Bukavu avec objectif examiner les moyens de résoudre les problèmes communs. Écoutons à ce sujet le rapporteur du conclave et ministre de la Justice du Sud Kivu, Alfred Maïcha, joint par Didas Namujimbo.
Il y a des problèmes d'insécurité causés par certaines gens qui ont commis des bévues au nord Kivu, peuvent se promener librement au sud Kivu, et vice versa. Il y a un problème de prolifération des armes, de surmilitarisation des régions. Sur le plan économique, il y a des taxes qui existent à Goma et qui existent éventuellement pas à Bukavu. Par rapport au taux de taxation, il y a des taxes surtaxées à Goma, moins taxées au sud Kivu, et vice versa. Cela favorise la fraude. Et donc il y a une sorte de proposition dans le d'harmoniser autant la nomenclature des actes pour les EAD que leur tarification pour que les opérateurs économiques n'aient plus de raison de frauder dans telle province pour se déclarer dans l'autre. Il faut des stratégies communes pour les juguler. Nous allons poursuivre ces réunions pour les améliorer afin d'aboutir à la conclusion d'un protocole d'accord qui nous permet de régler donc pour toutes ces questions-là.
À Kisangani, les habitants de Lubunga, à la rive gauche du fleuve Congo, se plaignent de pillage de leurs produits des champs par des militaires admis au centre de brassage du camp Lukusa. Selon ces habitants, les éléments, ces éléments s'introduisent dans leurs champs et récoltent tout ce qui s'y trouve, comme le témoigne ce cultivateur au micro de André Kitenge.
Les militaires admis au camp Lukusa font irruption dans nos champs à partir de 4 jusqu'à 8 kilomètres. Vraiment, il y a tracasserie dans nos champs, nous fouillons et nous n'avons rien à dire. Que ce soit les piments, ils prennent tout ce qu'ils trouvent par force. Ils sont munis des bâtons, si vous vous opposez, ils vous frappent.
Joint au téléphone le commandant adjoint du centre de brassage du camp Lukusa, chargé d'instruire, d'instruction, dit être au courant de ces actes. Il affirmait même avoir dépêché le chargé de renseignement pour s'enquérir de la situation. Ce commandant demande en outre aux victimes d'aller identifier les présumés auteurs de vol au cours d'une parade pour qu'ils soient poursuivis et sanctionnés. En Mbujimayi, interdiction formelle de procéder à de nouveaux recrutements au sein de la police locale. Cette mesure a été annoncée ce lundi par l'inspecteur provincial de la police nationale congolaise, Kasaï Oriental. C'était au cours d'une causerie morale à l'intention des hommes de troupes. Le général Patience Mouchiliav justifie cette mesure par de multiples réclamations des salaires par des éléments sans matricule ainsi que des abus constatés dans l'exercice de leurs fonctions. Emmanuel Elameji Wakabedi.
La mesure d'interdiction des nouveaux recrutements intervient après un constat amer. Plusieurs dizaines de policiers ont été recrutés illégalement, nombreux parmi eux recrutés par leurs proches, déclare le général Patience Mouchiliav, inspecteur provincial de la police au Kasaï-Oriental. Conséquence, ils ne sont pas payés par le trésor public, d'où de nombreuses réclamations. Ces éléments, explique-t-il, sont recrutés au niveau des commissariats. Conséquence, indiscipline, tracasserie policière et autres abus constatés dans le chef de ces éléments. Le général Patience Mouchid a déclaré que tous ces éléments doivent être formés avant de presser dans le rang. Ils doivent s'apprêter à aller au centre d'instruction pour une formation conséquente. D'après lui, seuls les policiers formés ayant un numéro matricule de Kinshasa peuvent réclamer leur salaire. Dans la foulée, l'inspecteur provincial de la police a annoncé d'autres mesures sécuritaires, notamment la réglementation des barrières policières, mais aussi que soit mis fin aux arrestations arbitraires et aux tortures. Emmanuel Elamijoua Kabedi, Mbujimayi, Radio Okapi.
La question de la retenue à la source des 40% des recettes aux provinces, vous le savez, était au centre de la rencontre lundi à Kinshasa entre le ministre du Budget et les gouverneurs de province ainsi que les présidents des assemblées provinciales. Il faut encore aplanir toutes les divergences face aux difficultés que rencontre le gouvernement pour la mise en application de cette disposition, avait déclaré lundi à Radio Okapi le doyen des présidents des assemblées provinciales. Selon Kimasi Matuiku, une discussion technique interviendra le 20 août prochain pour la matérialisation de cette disposition. Mais seulement voilà, la province du Katanga annonce retenir le 40% de ses recettes dès le 1er septembre prochain. Le gouverneur de la province, Moïse Katumbi-Tchapoué, l'a ainsi annoncé dès sa descente de l'avion à Lubumbashi devant la presse locale. Ses propos sont recueillis par Paul Kabouba.
On a été à Kinshasa, mais la réunion a été reportée pour une date ultérieure. Et j'ai laissé mes ministres travailler à Kinshasa. Ils sont là pour prendre de contact avec le gouvernement central. Vous savez, c'était un report qui est venu de notre chef, le président de la République. Il y a le ministre de l'Intérieur qui arrive peut-être aussi ce soir au Katanga. Mais moi, si je suis allé à Kinshasa, c'était pour réclamer le 40%. Parce que les Katangais ont beaucoup souffert. La Constitution dit qu'on doit récupérer à la source 40%. Peut-être il y a une deuxième constitution en République démocratique du Congo, là je vais accepter. Et moi je vais retenir déjà le premier. Et les gens doivent respecter leur signature. C'est très important.
Toujours au Katanga, mais cette fois-ci au nord, le convoi des 582 réfugiés congolais de Moba, bloqué à Pweto depuis les événements du 1er août dernier à 600 km au sud de Kalemie, est arrivé ce lundi à Moba. Le départ du convoi de la localité de Pweto intervient au lendemain de la visite du ministre du Développement Rural, Charles Mwando Simba, dans la région. Le Haut Commissariat pour les réfugiés attend des autorités congolaises les garanties sécuritaires pour la poursuite normale des opérations de rapatriement. Françoise Avemibé pour les détails.
Le départ et l'arrivée du convoi sont confirmés par Aitam El-Charzi, officier chargé de la protection au Haut Commissariat aux réfugiés. La même source précise que les 582 pensionnaires de camps des réfugiés zambiens ont bénéficié de la protection des autorités locales et des partenaires du Haut Commissariat aux réfugiés pour parvenir à Moba. Ils ont quitté le site de santé à 10 km au nord-est de Pweto, sans une moindre implication du Haut Commissariat aux réfugiés. Un départ qui résulte d'une part de différentes rencontres entre députés et d'autre part entre membres de la délégation du gouvernement central avec les couches des populations locales. Des violentes manifestations des habitants de Moba ont entraîné le 1er août l'évacuation de tous les personnels des Nations Unies dans la localité de Moba. La poursuite du programme de rapatriement des retournés congolais des pays frontaliers reste momentanément arrêtée. Toutefois, le Haut Commissariat aux réfugiés annonce l'arrivée, dans 4 jours, à Kalemi, des retournés volontaires congolais de camps des réfugiés de la Tanzanie. François-Xavier Mibé, Radio Kapi, Kalemi.
Dans la province du Bandundu, plus de 400 ménages sinistrés par les dernières pluies sont encore sans abri à Bandunduville. Ces familles s'inquiètent de l'arrivée de la prochaine saison de pluie sans aucune aide des autorités. Aide pourtant promise par le ministre chargé des affaires humanitaires et autres ONG humanitaires et qui n'arrive toujours pas. Ils réitèrent donc leur demande aux hommes de bonne volonté afin de venir à leur rescousse. Basile Bakumbane est allé à leur rencontre.
Grégoire Firmaladi est l'un des victimes de la pluie torrentielle qui avait causé la désolation le 23 avril dernier à Bandundu. Dépourvu de moyens, il s'abrite avec ses 15 enfants dans une pièce de 3 mètres sur 2 lui offerte par un voisin de bonne foi. Son seul espoir jusque-là était la promesse faite par le ministre des Affaires humanitaires, Jean-Claude Muyambo, qui était venu s'enquérir de cette situation le 8 mai dernier. Depuis lors, l'attente n'a fait que se prolonger jusqu'à la première pluie qui s'est abattue sur la ville de Bandundu le dimanche dernier. Avec les autres sinistrés, ils se disent inquiets de la léthargie qui caractérise les comités de crise mis en place pour les secourir. Et pourtant, affirment-ils, quelques dons étaient déjà collectés en leur nom. Contacté, Symphorien Mapamba, conseiller social du gouverneur, reconnaît l'existence de quelques dons déjà collectés, notamment une somme de 5 000 $ donnée par la MONUC. Mais ils attendent un lot important de tôles qui doit venir de Kinshasa avant de décider de l'orientation de cette aide. Car, ajoute-t-il, il y a des édifices publics comme le 19 écoles détruites par cette même pluie qu'il faut mettre en priorité. De Bandunduville, Basile Bakumbane, Radio Okapi.
Au Bas-Congo, la visite le week-end dernier à Kivula, à plus ou moins 360 km de Matadi, de l'administrateur du secteur de Sakadika de la province de Ouidji, de la république voisine d'Angola. Selon des sources administratives, Sébastien Okisona est venu rencontrer son homologue congolais, solliciter la main-d'œuvre congolaise pour les travaux de réhabilitation des infrastructures publiques dans son secteur. Dani Kindanzita de Matadi pour les détails.
Pendant cette visite de 48 heures en territoire congolais, les deux hommes d'État ont évoqué le problème de la borne érigée entre les deux pays et qui a été cassée par les Angolais. Ils ont aussi parlé de l'interdiction faite par la police angolaise à la population congolaise de Kimvula d'aller cultiver dans les champs qui se trouvent dans la partie angolaise. La même source a indiqué que le gouverneur de Ouidji a formulé une demande de recrutement de la main-d'œuvre congolaise pour la réhabilitation des infrastructures publiques de sa province, travaux qui seront supervisés par les groupes techniques gouvernementaux pour les investissements publics de Ouidji. Ces travaux consistent à la réhabilitation des écoles et autres infrastructures publiques. Signalons que le président sectionnaire de la FEC, Lukaya Gentisala, accompagné d'un ingénieur civil, va se rendre dans un proche avenir à Kimvula pour la province de Ouidji en Angola afin d'évaluer la manière dont la main-d'œuvre congolaise sera recrutée pour l'exécution de ces travaux. Matadi, Dani Kindanzita, Radio Okapi.
La page internationale dans cette édition du journal parlé, harcelé par une guérilla urbaine islamiste, le gouvernement somalien s'efforce de créer en plein Mogadiscio une zone verte du type de celle existant à Bagdad, en Irak, pour mettre à l'abri les responsables et les visiteurs étrangers, révèle le Premier ministre. Dans un entretien accordé mardi à Reuters, Ali Mohamed Jedi déclare à l'heure actuelle les services de sécurité du gouvernement s'emploie à instaurer une zone verte où les ressortissants étrangers et ceux qui sont vulnérables pourront demeurer pour leur propre sécurité. Des policiers mauritaniens ont découvert 860 kilos de cocaïne cachée sous des sacs de riz dans un minibus, soit la plus grande saisie de stupéfiants jamais effectuée dans ce pays, a annoncé la police lundi soir. L'Afrique occidentale est devenue une plaque tournante du trafic de cocaïne en provenance de Colombie et à destination des marchés européens où elle a une valeur marchande bien plus élevée qu'aux États-Unis. Les autorités mauritaniennes ont saisi la drogue alors qu'elles enquêtaient sur l'importation clandestine de plus de 600 kilos de cocaïne saisie après l'atterrissage d'urgence d'un petit avion en mai dans le port de Nadibou au nord. Voilà. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition du Journal Parlé. Merci de nous avoir suivis.